Sebi Thonon-les-Bains. Je vous appelle pour vous parler d'une action qu'on mène depuis plus de 12 jours. On a grimpé dans un cercle de cèdres centenaires qui ont été estimés à 150 ans et qui jouxte l'hôpital de Thonon-les-Bains et puis un agrandissement qui est prévu de l'hôpital. Et du coup, ces arbres sont menacés. Ils étaient tellement menacés que du coup, la dernière solution qui nous restait, c'était de se hisser dans les arbres. Donc, on a installé plusieurs hamacs à 20 mètres de haut. On veut conserver ces arbres, mais que l'agrandissement de l'hôpital puisse se faire. On n'est pas du tout opposé à l'agrandissement de l'hôpital. Enfin, là, j'ai appris par mon papa que j'avais fait mes premiers pas il y a 44 ans au pied de ces cèdres. Et puis, je rappelle aussi l'intérêt et l'utilité d'avoir des arbres à proximité d'un hôpital. Il y a eu des études qui ont montré que c'était un bienfait pour la santé, pour les gens qui sont soignés à l'hôpital et aussi pour le personnel soignant. Merci, on y croit. On va se bagarrer jusqu'au bout pour sauver ces arbres. À bientôt, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 26 ans et j'appelle depuis Paris parce que je suis préoccupée par la crise du climat, bien sûr, mais au moins autant par la crise de la biodiversité dont on parle beaucoup moins. Pourtant, je trouve qu'on dit trop peu que les solutions basées sur la nature, donc qui passent par la protection, la restauration et la gestion durable des écosystèmes, peuvent fournir plus d'un tiers de l'atténuation des émissions de carbone dont on a besoin pour stabiliser le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. C'est pour cette raison que le programme des Nations Unies pour le développement organise un événement de 3 jours qui s'appelle le Nature for Life Hub, donc le Centre de la Nature pour la Vie en français, qui réunira des leaders mondiaux, des gouvernements, des entreprises et des membres de la société civile pour discuter des transformations essentielles nécessaires pour que la nature soit au centre de nos modèles de société et de développement et non plus juste une ressource consommable. Voilà, je voulais vous partager ça et pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas à visiter le site web www.natureforlifehub.org. Voilà, merci à toute l'équipe de la Terre au Carré pour votre super émission. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Léon de Plouarnel dans le Morbihan. Donc, je vous appelle parce que j'ai créé une liaison maritime régulière décarbonée entre Quiberon et Belle-Île en catamaran à voile. Notre navire, il peut prendre 69 passagers et on a déjà transporté 10 000 passagers et 80% du temps sans les moteurs. Seulement, voilà, on est très content, mais on a dû restreindre notre activité puisque la mairie ne nous donne pas de bouée. Donc, voilà, petit coup de gueule là-dessus. Voilà, merci à tous. Salut.
Bonjour Mathieu. Alors c'est Catherine dans le département de l'Allier. Je suis exaspérée de voir tous ces détritus le long de nos routes dans de si beaux paysages. Mobilisons-nous, réunissons-nous, développons les actions pour nettoyer nos routes. C'est vraiment, vraiment insupportable. À très bientôt Mathieu.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
À l'heure des confinements successifs, à l'heure où nos vies se déroulent en grande majorité dans les villes, où nos activités se pratiquent dans des espaces clos et où nous passons de plus en plus de temps devant les écrans, eh bien les chercheurs dans le domaine de l'environnement font l'hypothèse d'une déconnexion des individus à la nature. Désormais, c'est vrai, tout nous retient à l'intérieur et les adultes comme les enfants sont de moins en moins en prise directe avec le monde vivant et ce serait toute notre sensibilité à la nature qui serait en train de s'émousser. Alors, comment sommes-nous en arrivés là? Comment réactiver donc un lien avec la nature tellement essentielle au développement humain? Eh bien, c'est ce que nous allons voir cet après-midi dans la Terre au Carré avec nos invités, la chercheuse Alice Kosker et la journaliste autrice Moïna Fauchier de la Vigne. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, Alix Kosker. Vous êtes chercheuse en psychologie environnementale au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, c'est à Montpellier. Et vous avez publié juste avant l'été Le lien naturel pour une reconnexion au vivant, c'est aux éditions Le Pommier. Moïna Fauchier de la Vigne, vous plaidez également dans vos écrits pour remettre la nature au cœur de l'éducation. Et vous avez sorti l'année dernière un ouvrage Emmener les enfants dehors avec Christelle Ferjou, c'est chez Robert Laffont. On va se retrouver dans un instant avec les questions, les messages, les témoignages des auditrices et auditeurs qui nous rejoignent sur la page de l'émission, les réseaux réseaux sociaux et bien sûr sur l'application France Inter où vous pouvez réagir en direct et même nous laisser des notes vocales simples et rapides à enregistrer où que vous soyez. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu et bonjour tout le monde.
On passera au vert ensemble à 14h30.
Et bassine géante en Poitou-Charentes, je vais vous parler artificialisation des sols.
Valérie Ayestaraï réalise cette nouvelle Terre au Carré préparée par Lucie Sarfati avec la participation de Leonardo Kahn pour les réseaux sociaux et à la technique aujourd'hui Sofiane Aktib.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré sur France Inter.
J'ai besoin de me reconnecter à la nature très régulièrement et même ça devient une addiction quoi, à force. Besoin de se retrouver dans la verdure, le calme.
Quand on est dans la nature, on se sent détendu et cette détente psychologique se traduit au niveau du corps par une baisse de toutes les hormones du stress, comme l'adrénaline, tout ce qui fait que, par exemple, notre tension augmente, notre cœur va vite, tout cela va être amélioré par un petit temps passé dans la nature.
Voilà, avec ça d'un reportage de Télématin avec la voix du professeur Michel Lejoyeux. Notre lien à la nature, donc, dans l'émission avec vous, Alix Kosker et Moïna Fauchier de la Vigne. Justement, sur les bienfaits, parce qu'on entendait tout à l'heure dans le répondeur, cet auditeur qui nous envoyait un message, là, sur les arbres dans l'hôpital où il est né. Est-ce qu'il y a des études sérieuses, justement, ce dont il parlait, là, sur l'importance d'avoir des arbres, à la fois pour le personnel soignant et pour les malades, Alix Kosker?
Oui, tout à fait. Il y a même des hôpitaux qui sont construits avec des jardins qui sont volontairement élaborés dans cette perspective de soins thérapeutiques. On parle de paysage thérapeutique, de paysage de soins.
Ouais.
Et il y a des endroits où on pratique ces soins à travers la relation à la nature dans un cadre hospitalier.
Ouais, et moi, je me souviens d'une étude où on disait le simple fait de voir des arbres à travers sa fenêtre, sa chambre d'hôpital, c'est déjà quelque chose qui peut aider Moïna Fauchier de la Vigne.
Oui, effectivement, il y avait une étude aux États-Unis qui était sortie, mais ça date de quelques années déjà.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Sur le fait d'avoir une vue verte, enfin verte, avec de la végétation derrière sa fenêtre, ça permettait aux personnes malades d'aller mieux et de sortir plus vite de l'hôpital. Ils avaient besoin de moins de calmants, etc., et de sortir plus vite de l'hôpital. Et il y a aussi d'autres études qui ont été faites sur des immeubles d'habitation avec une partie où il y avait une vue verte, une partie sans vue verte, et les personnes qui habitent côté vert, ils sont plus apaisés. Il y a les relations entre les personnes qui sont plus tranquilles, etc.
On entendra un paysagiste tout à l'heure qui nous parle justement de la revégétalisation des villes. On verra si c'est un vrai rôle pour se reconnecter. Et ce terme-là, on va en parler aussi, Alix Kosker, parce que c'est important de voir d'où on se situe par rapport à l'usage des mots. Donc cette reconnexion, on en parle beaucoup. Et puis il y a cette hypothèse que vous formulez de la déconnexion justement à la nature, parce que on a tous l'impression effectivement qu'on est déconnecté, mais il faut pouvoir le prouver au fond. C'est un peu le travail que vous avez essayé de faire dans ce livre, hein.
Oui, tout à fait. C'est un peu l'enjeu de l'ouvrage. Ces termes-là, cette notion de connexion, elle s'articule un peu sur un triptyque. On a la connexion, la déconnexion, qui est aussi une hypothèse, et puis vers une perspective future, cette notion de reconnexion. Et justement, l'objectif de l'ouvrage, c'était un petit peu de s'interroger sur ces termes-là et sous quelles conditions on peut parler justement de connexion, de déconnexion et ensuite de reconnexion potentiellement.
Alors le 27 août dernier, donc c'était il y a quelques jours à peine, vous avez signé ensemble avec d'autres membres de collectifs, d'enseignants, de médecins, de défenseurs de l'environnement, une tribune donc pour la préservation d'un endroit assez unique en France, c'est la ferme école de la Pêche d'Or. Alors c'est une bergerie pédagogique qui est menacée, Moïna Fauchier de la Vigne, c'est ça?
Oui, c'est à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Et cet endroit existe depuis 10 ans déjà, en partenariat avec et l'école de la Pêche d'Or et d'autres écoles alentour. Et les habitants du quartier qui participent. Il y a de nombreux ateliers qui sont menés. L'espace aussi a évolué. Ils ont paysagé l'espace avec les habitants, avec les enfants, avec les élèves des écoles. Et là, comme il y a un projet de reconstruction de l'école qui a besoin d'être rénové, ils veulent détruire ce qui existe pour l'instant et mettre un nouveau bâtiment à l'endroit où il y a aujourd'hui la bergerie et mettre un gros bâtiment scolaire à cette place-là. Et donc, les personnes qui soutiennent cette association propose un projet alternatif qui serait moins coûteux, beaucoup plus intéressant pour le quartier et qui permettrait de garder avec des petits bâtiments qui soient complètement ouverts sur le jardin et de conserver toute cette zone de biodiversité qui est très intéressante. Et ce projet est soutenu et par l'équipe pédagogique et par les parents d'élèves et par bah, à peu près les personnes qui habitent dans le quartier qui sont concernées. Donc il faudrait que la mairie accepte de faire évoluer son projet.
Ouais, alors c'est un exemple, Alix Koska, assez emblématique hein, finalement de ce qui se passe. Un lieu situé dans une zone urbaine dite défavorisée, avec là cet exemple vraiment de bergerie qui fonctionne super bien, parce que les enfants sont au contact d'une certaine nature. Et puis la municipalité qui décide finalement d'enlever tout ça.
Oui, je trouve que c'est tout à fait symptomatique, c'est-à-dire que ces relations avec la nature, elles concernent pas justement des individus isolés de manière individuelle qui vont interagir avec des éléments du vivant, mais en fait ça s'inscrit dans un processus social, voire même politique. Voilà, tout ça, ces trois aspects-là, ils sont très liés, les individus, les sociétés, et puis la biodiversité.
Ouais. Donc pour l'instant, le maire de la commune, Bagnolet, Tony Di Martino, refuse l'alternative proposée par le collectif Sort de Terre, hein, puisque c'est eux qui essaient de défendre et de s'opposer à ça. C'est vrai quand même que derrière cette question de Bagnolet, il y a toute l'idée de l'inégalité d'accès aux espaces de nature aussi, Alix Koska, hein, finalement. C'est ça qui se pose comme problème.
Oui, alors ça, c'en est un. Effectivement, dans les quartiers dits plus populaires ou défavorisés, etc., souvent l'accès à des espaces de proximité de nature, il est moindre. Ouais. Du coup, les effets sont aussi forcément les personnes qui ont moins l'opportunité d'avoir des sorties de manière régulière à proximité, ben, vont pouvoir moins bénéficier des aspects positifs qui sont associés à la nature.
On va écouter donc le paysagiste Pierre-Alexandre Isser, c'était en 2016, sur la végétalisation des villes. On va voir justement si ça participe à cette reconnexion ou pas.
Aujourd'hui en ville, on cherche à planter tous les espaces. Donc on plante sur les murs, on plante sur les toits, chose qu'on ne faisait pas il y a 15 ans de ça. Aujourd'hui, les techniques permettent justement de pouvoir mettre des végétaux là où on ne les attend pas. Et en ville, on doit essayer de planter le moins de centimètres carrés. Le jardin aujourd'hui, le jardin en ville, c'est, et il faut vraiment le considérer comme une pièce extérieure. C'est une pièce supplémentaire de la maison. Donc dans cette pièce-là, elle est faite pour être belle, elle est faite pour régaler les yeux. Mais elle est faite aussi pour pouvoir s'y détendre, pour pouvoir recevoir ses amis, sa famille, y être avec ses enfants. Le jardin, c'est aussi quelque chose qui peut véhiculer des messages. Quand vous faites du potager avec vos enfants, vous apprenez à semer, arroser, repiquer. Ils comprennent ce que c'est que la vie, ils comprennent qu'un être vivant, si on ne s'occupe pas de lui, on ne dit pas ce qu'il faut, bah, il meurt. Et quand il est mort, bah, c'est fini. C'est vraiment à travers le jardin, je pense que c'est vraiment la vraie école de la vie.
Alix Koska, une réaction justement sur ces efforts quand même qui sont menés un peu partout aujourd'hui pour au moins essayer de mettre un peu plus de verdure dans l'urbain.
Oui, je pense que c'est au moins un commencement nécessaire de proposer plus de possibilités d'interaction. Après, il y a tout un continuum entre du verdissement où on va juste avoir du vert en proximité et puis des milieux qui vont permettre une véritable interaction profonde et possiblement transformer aussi des relations.
Mais cette déconnexion là à la nature dont on parle depuis quelques minutes, est-ce qu'elle ne concerne finalement que des urbains qui sont entourés de béton ou est-ce qu'il y a une déconnexion, y compris dans des milieux ruraux, où même si on est entouré de nature, hein, si on doit le dire comme ça, et ben en fait on n'y va pas, on va plus se promener, on rentre, si on est un enfant, de l'école à la maison, si on est un adulte, du travail à la maison, sans profiter des alentours, Moïna Fauché de la Vigne.
Effectivement, par rapport à votre question tout à l'heure, je pense qu'il y a et une question d'accès, mais aussi une question de culture, parce qu'on peut avoir, il y a beaucoup d'enseignants qui font classe dehors en milieu rural et qui disent que les élèves qu'ils ont, même s'ils habitent dans une maison avec un jardin, avec une forêt juste à côté, ben ils vont pas aller dans la forêt juste à côté, ils vont pas profiter du jardin parce qu'ils vont être à l'intérieur, parce que les parents ont peur du dehors et ont pas l'habitude de ça. Donc c'est vraiment aussi une question de culture. Donc il faut accompagner les parents et que les enseignants aussi montrent que c'est possible. Et les enseignants qui sortent avec les élèves, ça permet aussi aux enfants de faire sortir les parents qui n'ont plus l'habitude de le faire.
Mais ça date de quand, ce phénomène que même en milieu rural, entre guillemets, je ne sais pas si on peut faire une généralité, d'ailleurs c'est compliqué, mais en tout cas que certains vont de moins en moins au contact du monde vivant qui les entoure. Il y a un déclencheur, ça date de quoi? Des années 90, des années 2000, vous savez?
Alix Koska, vous qui faites un historique justement dans
votre
livre.
Alors mon historique, il est très très large.
Vous partez de l'Antiquité.
Je parle vraiment de l'Antiquité, donc effectivement, je pense qu'on n'est pas sur un pas de temps. Effectivement, je pense depuis la fin de la Seconde Guerre, on a des relations clairement à la nature qui se sont transformées de manière assez rapide. Mais par contre, donc il faut distinguer à la fois une forme de déconnexion qui serait plutôt physique dans nos usages, dans nos habitudes, auquel cas effectivement on est de moins en moins confronté au vivant parce qu'il est moins présent dans nos vies quotidiennes et aussi parce qu'on a des usages, des modes de vie qui font qu'on est moins dehors. Donc ça c'est une première chose. Et puis ensuite il y a ce que j'appelle les représentations, c'est-à-dire tout l'ensemble des idées, des croyances qu'on associe à cette notion de nature. Et ça, à mon avis, la déconnexion, elle est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus profonde, c'est-à-dire il y a un processus d'éloignement progressif qui s'est mis en place, où on va considérer que finalement l'humain, il est détaché du reste du vivant, et on va se placer globalement en position de surplomb par rapport aux éléments naturels.
Ouais. Mais vous allez même plus loin, vous remontez au néolithique au fond, hein, au début de la sédentarisation, c'est presque ça au fond la racine de cette déconnexion, non?
Alors avec une question ouverte, à partir de quand on peut remonter? Parce que finalement peut-être que voilà, peut-être qu'il y a toujours eu ça, il n'y a pas eu d'âge d'or d'une connexion idéale à la nature.
Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant, déjà des messages sur franceinter.fr, vos notes vocales aussi sur l'application France Inter pour parler de notre lien et de notre déconnexion malheureusement visiblement à la nature.
Est-ce que tu sais que 8 jours ça fait 11 520 minutes à la seconde près? Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur, dit ton maître près? Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour, là, ici et tout autour? Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à 1 millimètre près? Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. Est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleurs et des fleuves? Te dire à la rivière après. Est-ce que tu sais que nous deux doigts poussent des armes, des tonnes et des tonnes? Je peux pas te dire au drame près. Je sais pas si tu essaies, je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais. Éparpille ici, tout le monde me regarde, personne et personne ne voit tout le monde. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais.
Est-ce que tu sais, la voix de Gaëtan Roussel?
La Terre au carré. Sur France Inter.
Des tomates, des courges, des poules. Il s'agit bien d'une ferme, mais en plein cœur de ville, dans un quartier prioritaire d'Avignon. Une ferme urbaine, créée par une association de 5000 mètres carrés, qui va produire des fruits et légumes avec des techniques de permaculture.
Donc là, en fait, on a expérimenté plusieurs modes de culture. Avec, par exemple, on a des bacs qui sont un mélange de broyat, compost, terre végétale. Donc là, ici, on a des tomates et on a mélangé, on a mis des fleurs parce que c'est important d'avoir aussi une biodiversité entre les espèces végétales. Donc là, ici, on viendra, en fait, avec les écoles, les centres aérés, les enfants.
Voilà, ferme urbaine, un exemple en tout cas à Avignon, avec la voix d'Inès Revuelta qui est cofondatrice des Jeunes Pousses, c'était en septembre 2020. Nos invités donc, Alix Kosker, le lien naturel c'est au pommier, et puis Moïna Fauchier de la vigne avec Emmener les enfants dehors, ça c'est chez Robert Laffont. Vous parlez quand même, Alix Kosker, du caractère pathologique que les sociétés occidentales entretiennent aujourd'hui à l'égard de la nature. Donc on se construit, c'est ce que vous dites, complètement à côté aujourd'hui de la nature, hein.
En tout cas, dans la manière dont on voit les choses, peut-être que, enfin, cette espèce de pathologie, elle, alors, qui est peut-être pas tout à fait une pathologie dans la mesure où elle est partagée par un ensemble, par un groupe social à l'échelle ouais. d'une société. Donc, ouais. est-ce qu'on peut encore parler de pathologie? On peut plutôt parler de mouvements profonds qui sont des phénomènes culturels et sociaux. Mais du coup, donc, en quelque sorte, cette décodexion pathologique, elle est surtout dans l'espèce de décalage qu'il peut y avoir entre le fait de reconnaître à quel point nos existences, elles sont conditionnées par la biodiversité, par l'existence du vivant, simplement, d'un point de vue physiologique, mais aussi beaucoup plus largement, ça conditionne tout le développement de nos sociétés jusqu'à maintenant, et la manière de se positionner par rapport à ça, sachant ça, c'est-à-dire continuer... Ou ne pas être capable justement de trouver les leviers pour changer profondément nos modes de relation.
Une question de Max sur l'application France Inter qui nous demande si ce n'est pas la télé puis Internet aujourd'hui qui déconnecte les gens de l'extérieur. Même les gens, on en parlait, qui vivent à la campagne, Moïna Fauchier de la Vigne, c'est quoi votre avis là-dessus?
Je pense que c'est sûr que devant un écran à l'intérieur... on n'est pas dehors, mais et que ça arrange pas du tout les choses. Mais je pense qu'il y a aussi un autre facteur qui joue beaucoup, c'est la peur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents et d'éducateurs qui vont pas sortir parce qu'ils ont peur de sortir.
Ils ont peur de quoi ?
Ils ont peur parce que certains sont déconnectés de la nature, donc n'ont pas l'habitude d'être dehors, parce que dehors il y a des surprises, parce que dehors c'est moins contrôlable, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que comme il y a des surprises et que c'est moins contrôlable, bah pour des enfants notamment, c'est ça qui va éveiller la curiosité, qui va permettre les apprentissages, des découvertes, des expériences de joie, d'excitation, d'émerveillement, et donc je pense que les écrans ont un effet très néfaste surtout les heures passées devant les écrans dès le plus jeune âge. Et à l'inverse, le fait d'être dehors, qu'on habite en ville ou qu'on habite à la campagne, le fait de passer du temps dehors, de passer du temps en mouvement, en découverte, d'admirer des choses, d'observer, on est dans le réel, on touche terre et ça permet de redescendre sur terre, en fait, ce qu'on n'a pas avec les écrans. Et ça permet aussi de voir que la nature, elle peut nous éblouir, elle nous dépasse. Et nous avons des limites corporelles. Un enfant de 2 ans, il ne va pas pouvoir porter une bûche, et ben il va demander à quelqu'un d'autre de l'aider, etc. Et donc, on apprend aussi ses limites et on apprend à développer ses sens. Donc, c'est tout ça aussi.
Il y a un exemple que vous citiez dans un article que vous avez écrit pour Le Monde, d'adolescents, parce qu'on ne parle pas de petits ni de bébés, hein, d'adolescents, à partir de 10 jusqu'à même beaucoup plus tard, qui mettaient pour la première fois les pieds nus dans l'herbe. Et ça faisait vraiment ça donnait l'impression d'une expérience totalement inattendue, enfin quelque chose qui était
qui faisait peur. Et moi, c'était au tout début, c'était il y a un peu plus de 4 ans quand je commençais à travailler sur le sujet, et ça me paraissait un peu fou quand on m'a raconté cette histoire. Ouais. Et depuis, j'ai interrogé beaucoup d'éducateurs et d'enseignants, et qui me disaient tous bien sûr, des anecdotes comme ça, on en a à l'appel. Les enfants, ils ont l'impression que les étoiles, ça existe que dans les dessins animés.
Donc ça commence comme ça, quoi,
ouais.
Finalement.
On a des témoignages sur Facebook. Eve, par exemple, qui nous écrit « Loin de la ville, nous sommes encore branchés à la nature, aux saisons, aux potagers, aux plantes sauvages et à l'observation des animaux. » Et Simone nous écrit, elle, qu'elle est dans la nature entre au moins 1 et 2 heures par jour avec son chien. « C'est indispensable à mon équilibre », nous dit-elle. Ouais.
Alix Kosker, finalement, les milieux naturels aujourd'hui, le problème, c'est qu'on les perçoit d'abord comme une chose récréative, dans ce lien qui s'est estompé.
Oui, finalement. Pour la plupart des gens, notamment des urbains, les espaces de nature, ils sont même souvent entretenus ou préservés à des fins récréatives. Alors après, il y a aussi d'autres milieux qui sont à des fins plutôt de pratiques agricoles, etc. Globalement, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des espaces naturels qu'on a l'opportunité de côtoyer, ce sont des milieux qui sont créés par les humains, pour les humains, avec des usages qui sont très clairement anthropisés et qui souvent sont sous une certaine coupe réglée en quelque sorte, ou en termes d'opportunités de jaillissement du sauvage dans les opportunités de rencontre, il va peut-être pas forcément se passer des choses énorme. Quoique, bien entendu, je ne dis pas qu'il ne se passe rien, même dans un parc juste à côté de chez soi, ou ouais. dans un parterre de rue, etc. Il y a déjà des mille choses à observer, mais voilà, il y a toute une gradation sur ces types de milieux-là.
Et ça n'apparaît plus comme une priorité aujourd'hui, au fond, dans nos existences, d'être vraiment immergé dans la nature?
Et il me semble que non. Et encore une fois, je suis là pour en parler. On est là autour de cette table, c'est parce qu'il y a ces dernières années une espèce de
faisceau de présomption.
Il y a quelque chose qui alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est un fait social, mais un intérêt ou un besoin de se remettre au contact de ces environnements-là. Comme une espèce de besoin un peu physiologique.
Mais ça, pardon, c'est français, ce dont vous parlez, c'est mondial, c'est... Vous parlez de qui en fait exactement? Parce que je ne sais pas si c'est pareil aux États-Unis, je ne sais pas si c'est pareil sur le continent africain, je ne sais pas si c'est pareil en Asie. De qui parlez-vous là?
Oui, alors dans l'ouvrage, je parle clairement des sociétés occidentales contemporaines, industrialisées, parce que c'est le terrain d'études. Et effectivement, on est potentiellement, à travers le monde, il y a des cultures complètement différentes et des manières d'interagir avec le vivant qui sont aussi très différentes. Donc voilà, là je parle dans le cadre strict de. Des sociétés occidentales contemporaines.
Marina Fauchier de la Vigne, on en parlera tout à l'heure avec vous, évidemment, de cette, pas une injonction, en tout cas cet encouragement à mettre les enfants beaucoup plus dehors. Vous étiez venu il y a 2 ans nous en parler, justement, et dans les écoles, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été faits en 2 ans. Vous avez été surprise.
On parle parce que quelque part, c'est complètement la catastrophe, et en même temps, par rapport à il y a 2 ans, j'ai été frappée à quel point ça a évolué, et ça a évolué plus que ce que j'aurais imaginé et que j'aurais espéré. Et donc, en 2 ans, on a de très nombreux enseignants qui ont commencé à faire classe dehors. On a un ministre de l'Éducation nationale qui, il y a quelques mois, a dit officiellement, il a écrit dans un message à tous les enseignants qu'il encourageait la classe dehors pour les bénéfices et sanitaires et éducatifs. Donc, c'est reconnu et légitimé. On a plusieurs villes comme Poitiers, comme Paris, des petites villes, enfin un peu partout, il y a plein de collectivités qui commencent à soutenir aussi ce mouvement pour que les enfants sortent et grandissent en contact avec la nature. Ça devient un vrai sujet. Il y a un an, tous les espaces verts et toute la nature étaient interdites au premier confinement. Je pense qu'aujourd'hui, ce besoin de nature, il est reconnu et ça serait inimaginable que là, on referme tous les squares dans les villes, tous les littoraux, toutes les rivières, toutes les montagnes, toutes les forêts.
Ben, on espère en tout cas. On y revient tout à l'heure avec messages et questions des auditrices et auditeurs et vos notes vocales bien sûr sur l'application France Inter.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, Camille passe au vert, Camille Cronier.
Et je vais vous demander d'imaginer, s'il vous plaît, une bassine. Est-ce que c'est bon? Vous avez une bassine dans la tête?
Oui.
Bon, alors vous prenez cette bassine et vous imaginez maintenant qu'elle grossit tellement que la voilà aussi grande que 10 terrains de foot. Alors oui, c'est méga bassine. On appelle ça aussi un cratère d'eau. Et enfin, vous placez cette méga bassine au milieu d'un champ creusé, donc, pour qu'elle soit bien calée avec le plastique dans le fond et sur les bords. Et voilà, tadam, vous visualisez l'objet de la polémique dont je vous parle aujourd'hui. Les bassines en Poitou-Charentes. Il en existe déjà 46 et une centaine sont en projet, dont une devant laquelle semble se trouver Julien Leguet dans les Deux-Sèvres.
Là, la bassine en question, c'est une emprise de 8 hectares. Là, ce qu'on a sous les yeux, c'est des grilles de protection de chantier. Et pour faire le tour de la bassine en question, c'est 1 km de grilles. Par contre, je vais préciser tout de suite, ces bassines ne vont pas se construire parce qu'on va lutter de manière déterminée. On va une nouvelle fois leur faire rendre gorge et les faire reculer comme on le fait depuis 4 ans.
Ouais, alors Julien Leguet, il est porte-parole du collectif Bassine Non Merci, où milite aussi par exemple à Poitiers cette fois, Hélène, enseignante à la retraite.
C'est une aberration. Elles sont remplies non pas avec l'eau de pluie, mais ils le pompent l'hiver dans les nappes phréatiques.
Alors les exploitants agricoles de ces bassines, gigantesques réservoirs d'eau pour irriguer les champs de maïs et autres lieux d'agriculture intensive du coin.
On est clairement dans une logique d'accaparement de l'eau pour quelques-uns. La priorité de ces bassines n'est pas de produire des petits légumes pour les cantines du coin, mais bien de faire de la céréale ou de l'élevage intensif pour de l'export. Donc pour nous, c'est très très problématique.
et pas du tout raccord avec l'urgence climatique et les discours officiels sur la limitation de l'artificialisation des sols, entre autres.
Félicitations à la FNSEA, ils sont toujours aussi performants pour ce qui est de représenter leur intérêt propre. Par contre, ils sont toujours aussi nuls pour ce qui est de représenter l'intérêt général.
Voilà, le taclé direct avec des manifestations dès dimanche dans la Vienne et à la fin du mois pendant le congrès national de la FNSEA, le principal syndicat agricole, je le rappelle. Cible claire, donc la FNSEA, tout comme Vinci, par exemple, qui a remporté un appel d'offres pour les bassines. Mais les manifestations suffisent-elles pour que les choses changent? La question a été posée la semaine dernière lors de la préparation d'une nouvelle saison des soulèvements de la terre. Alors les soulèvements de la terre, c'est un mouvement lancé en mars dernier pour lutter contre les industries polluantes et les projets de bétonnage des terres, comme les bassines et tout un tas d'autres. Et ces militants des soulèvements de la terre pensent ajouter désormais aux manifs, aux actions juridiques et aux actions de désobéissance civile, ce qu'ils appellent du désarmement. Explication avec l'une d'entre eux.
Le désarmement, c'est très simple. On part du principe que ces infrastructures, que ça soit Lafarge, que ça soit des sites de Vinci, que ça soit Bayer-Monsanto, ce sont des armes de destruction massive. C'est aussi simple que ça.
Objectif donc, désarmer ces armes de destruction massive, si je reprends ces termes. Écoutez un autre membre des soulèvements de la Terre qui lui habite encore sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Ces multinationales, tant qu'on ne les bloque pas physiquement, concrètement, elles continuent à intoxiquer le monde et à nous détruire. Et je suis absolument certain que si on veut enfin faire obstacle à l'aggravation de la crise climatique, la catastrophe environnementale et aux multinationales et politiques gouvernementales qui en sont responsables, il va falloir passer très vite un seuil en termes de détermination, d'ampleur et de forme d'action collective.
Entendez par là des blocages, des occupations, des démantèlements, voire des sabotages. Et Hélène, notre retraitée poitevine des bassines, n'est pas contre le principe d'un peu plus de radicalité parfois.
Ça reste matériel. S'il faut en arriver là pour qu'on nous entende, pour qu'on nous entende, je veux dire, je ne vais pas non plus en faire un scandale.
Voilà, des actions collectives, parce que tous restent persuadés que l'union fait la force, et donc désormais possiblement très diverses, même si cette idée de passer plus souvent à la vitesse supérieure fait encore débat, et c'est très bien raconté sur le site du quotidien Reporter, reporter.net, qui relaye toutes ces luttes, donc... Allez donc faire un tour sur reporter.net.
Merci Camille Cronier. Passe au vert, les bassines de Charente-Maritime.
Alix Kosker, Moïna Fauché de la Vigne. Est-ce que par exemple un champ de maïs comme ça, un champ de maïs d'agriculture intensive, vaut mieux, vous préférez qu'on aille s'y promener ou qu'on reste à l'intérieur devant son ordinateur?
Ah, c'est difficile. Dans tous les cas, je crois qu'il vaut mieux pas rester à l'intérieur devant son ordinateur. Ensuite, ça dépend comment ce maïs est produit, sur quelle surface. Est-ce que voilà, il y a plein de conditions parce qu'il faut bien entendu produire des cultures, etc. Donc c'est loin d'être incompatible avec des relations approfondies au vivant. Clairement, l'agriculture, ça fait partie de types de relations possibles de reconnexion, on va dire, avec la biodiversité, mais ça dépend comment c'est envisagé. Enfin voilà, il y a plein d'initiatives agricoles de type permaculture, etc., qui sont vraiment sur cette réflexion qui engage pas seulement juste la production agricole, mais aussi voilà, réfléchir plus largement aux enjeux sociaux que ça soulève.
Moïna Fauché de la Vigne, est-ce que l'agriculture intensive en particulier, là, puisqu'on en parlait, contribue quelque part à nous déconnecter du vivant?
Alors je vais pas parler d'agriculture intensive, mais je pense que de toute façon, malgré l'agriculture intensive, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut aller dehors, à côté du champ en question, il y a sûrement une haie, il y a sûrement quelques arbres, il y a sûrement des gendarmes, il y a sûrement plein de choses qui sont encore vivantes et qu'on peut encore explorer et découvrir. Et donc, aller autour de ces champs-là, je pense qu'on peut trouver encore des choses intéressantes. Et juste pour rebondir, il y a au printemps dernier, on a lancé une action inédite avec de nombreux acteurs divers et de l'éducation populaire et de l'éducation environnement et des associations de collectivités, etc. Donc on a créé cette coalition, on a monté un site internet pour soutenir tous les enseignants qui ont envie de faire la classe dehors mais qui se sont pas encore lancés. Mmh. Parce qu'ils ont l'impression que c'est pas permis, que c'est difficile de le faire, qu'on peut pas se lancer tout seul. Et donc, et grâce à ce site, on a mis en place une carte participative, donc où tous les enseignants peuvent s'inscrire. Il y a déjà plus de 150 enseignants qui sont inscrits avec leurs coordonnées. Donc, si je suis une enseignante à Nantes et que j'ai envie de m'y mettre, mais je sais pas comment faire.
Et c'est quoi l'adresse?
Je peux contacter. C'est classe-dehors.org. Et donc, il y a des ressources partagées, mutualisées, et surtout ces divers acteurs qui commencent à travailler ensemble. Donc, je pense qu'on va on va avancer de ce côté-là, et malgré les champs.
Classe-dehors.org, on le met en lien évidemment sur La Terre au Carré, et on attend toujours vos messages pour parler de ce lien à la nature.
Winter comes and food is scarce. We'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes, must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce. Stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes, I must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make a shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes and find the sun. When winter comes.
Bien, on se prépare déjà à l'hiver avec Paul McCartney, When Winter Comes, super.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Allez, on profite encore de l'été, on en a pour 3 semaines. Alix Kosker, le lien naturel au pommier. Christelle Ferjou avec vous, Moïna Fauchier de la Vigne, pour ce livre « Emmener les enfants dehors » chez Robert Laffont. Il y a pas mal de questions. Camille, on va d'abord écouter peut-être cette note vocale laissée sur l'appli France Inter par Antoine.
Je pense que d'abord, c'est nos moyens de déplacement dans les villes qui empêchent un regard sur la nature et sur la vision qu'on a de la nature. On se déplace plus qu'en voiture, on n'a plus que nos petits trottoirs qui ne sont pas du tout verts. Et les gens n'ont plus le temps de regarder ni un arbre en passant, ni se poser dans l'herbe parce qu'ils sont en voiture. Voilà ce que je pensais.
Voilà, c'était Antoine qui souhaitait nous laisser ce message. Un commentaire ? Alex Kosker.
Bah oui, c'est les modes de déplacement, typiquement, ça a une influence au quotidien sur la manière dont on interagit moins avec le vivant. Souvent, on se déplace en voiture pour aller d'un endroit fermé à un endroit fermé, d'ailleurs. Mmh. Donc, comme ça, on ne se laisse aucune chance d'interagir.
On peut voir la fenêtre de la voiture, quand même. Ça fait pas le même effet.
On peut le faire à l'envers.
Ouais. Allez, des témoignages, Camille, je crois. Hein.
Oui, Mathieu qui nous écrit « Dans la campagne des Vallons de Vilaine, je viens de ramasser des murs avec mes enfants, je prépare de la confiture, vive la nature !» Marie aussi nous écrit « Elle est psychologue clinicienne, nous dit-elle, sur le bassin d'Arcachon. » Et elle nous raconte qu'elle propose depuis peu des séances de psychothérapie hors les murs, près de son cabinet dans la forêt au bord du bassin. Elle nous écrit, Marie, même pour les patients vivant dans ce cadre, nombreux sont ceux qui ne peuvent plus profiter de ce cadre naturel, enfermés dans nos rythmes et nos télétravails. Je suis convaincue du bienfait de la psychothérapie en nature.
Alors, l'exemple de l'école en forêt, justement, ça s'est bien développé. On le disait tout à l'heure, Moïna Fauchier de la Vigne. Ça existait déjà depuis assez longtemps. Le Danemark, c'est dès les années 50, hein, je crois. Hein.
Oui, ça a commencé à se développer à ce moment-là. Et depuis, ça s'est complètement répandu. Et au Danemark, c'est pas un sujet. Quand j'avais fait le reportage là-bas, les médias, c'est pas un sujet. Parce qu'en fait, il y a plein d'adultes, même peut-être des grands-parents, qui ont été dans une école en forêt quand ils étaient petits, qui après ont fait une scolarité tout à fait normale, qui ont fait des études, qui ont eu un travail. Et donc, on se dit pas, apprendre dehors, en fait, c'est pas sérieux. Et donc, on va avoir des problèmes après. Après, ce qui se développe aussi beaucoup, c'est le fait... C'est une adaptation, l'école en forêt, c'est des enfants qui sont toute la journée dehors tout le temps et qui font qui sont quasiment pas à l'intérieur. En France, qui se développe beaucoup, c'est des enseignants qui sortent à peu près, ça peut être une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, une demi-journée. Donc c'est moins extrême, mais en même temps, par ce biais-là, on offre déjà un contact régulier et fréquent qui permet aux enfants de s'approprier l'espace où ils habitent, d'être en contact et de développer ce lien.
Oui, Alix Kosker, ça, il y a un enjeu très fort pour l'éducation en France là-dessus.
Oui, comme ailleurs d'ailleurs, mais je pense que parmi les pistes potentielles de reconnexion, ce qu'on pourrait vers le vivant, ça, l'éducation, ça pourrait clairement être un aspect prioritaire.
Mais ça l'est déjà, on sent que les choses quand même sont en train de bouger et que maintenant il y a non seulement une prise de conscience mais aussi le passage à l'acte avec, comme vous le disiez, régulièrement des classes qui se font à l'extérieur.
Il y a de plus en plus d'enseignants qui commencent à pratiquer ça. Il y a aussi donc des collectivités qui vont aider donc en par exemple si c'est par exemple une ville, elle pourra aider à identifier des lieux parce qu'un des premiers freins un enseignant qui va sortir, il va se dire j'aurais besoin d'une forêt mais j'ai pas de forêt à côté de chez moi donc comment je fais? En fait, on peut aller dans des espaces verts en ville, il y a des espaces verts publics qui sont peut-être pas idéaux mais qu'on peut utiliser à Paris, on a le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, il y a plein d'espaces et qui sont complètement sous-utilisés en semaine. Donc déjà utiliser ces espaces-là, savoir que c'est possible et après pouvoir aussi faire de la formation entre pairs, dès qu'on sait qu'il y a un autre enseignant qui le fait, on va pouvoir se lancer.
Allez, on va partir au Danemark. Exemple dans le JT de France 3 en novembre 2020, à une époque encore où ce type finalement d'initiative nous paraissait très exotique en France.
Il y a 700 écoles dans la nature au Danemark, près d'un quart de l'offre éducative. Cette maternelle en extérieur est tellement réputée que des parents ont déménagé pour que leurs enfants puissent vivre ici une expérience unique.
Je pense que c'est quelque chose qui va les accompagner toute leur vie d'adulte. Ici, la nature est partout. Ils vont emmagasiner du réconfort et de la quiétude avant d'affronter ce monde trépidant où tout va si vite.
La nature encore, pour se forger le caractère, pour apprendre à être persévérant, à faire avec les éléments.
Au Danemark, il pleut tellement. Les enfants doivent affronter ça, faire avec. Ils doivent aller de l'avant et s'adapter. Ils ne peuvent pas arrêter la pluie ou déplacer la colline. Tu dois la grimper, tu dois y arriver. Ça les rend plus forts et après, ils se sentent « Waouh, on l'a fait !»
Ah oui, c'est pas à moitié quand même. C'est-à-dire, quel que soit le temps, Moïna Fauchier de la Vigne, on met en plus les enfants dehors. Donc on leur apprend aussi à vivre dans des conditions un peu extrêmes parfois.
Des conditions extrêmes, mais ils sont habillés pour. Ouais. En fait, la différence entre la France et le Danemark, y a des différences de culture, mais il y a aussi une différence. Ils sont équipés, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Ouais. Et donc quand j'y suis allée, ils avaient tous des combis de ski en fait. Des combis de ski, des grosses bottes, et les enseignants pareil.
Ouais. Ça c'était en 2020, donc il y avait 700 écoles. Je crois qu'en Allemagne c'est beaucoup plus des milliers qui ont vraiment ces initiatives. En France, on arrive à le quantifier aujourd'hui ou pas? Ou c'est encore très compliqué et balbutiant quand même?
Il y en a de plus en plus qui se montent après d'avoir un chiffre exact, je ne pourrais pas vous dire exactement.
Allez Camille, des messages.
André nous écrit qu'elle habite un hameau, alors elle ne nous dit pas où, mais elle nous explique qu'elle est assez souvent surprise que des voisins, à part couper leur pelouse, ne profitent jamais de leur extérieur. On a aussi un message de Corinne qui nous écrit « Mon lien à la nature, c'est de regarder chaque jour une araignée qui évolue sur sa toile derrière la fenêtre de mon bureau. Elle m'épate si précise. Toujours au centre de sa toile, j'ai le sentiment que nous sommes deux dans mon bureau. » Alice Kosker, quand on est adulte, pour sortir de l'école dehors, quand on est adulte, comment on fait pour se reconnecter à la nature? Et si on est en ville, vous parliez tout à l'heure des squares dans les centres-villes, mais est-ce que ça suffit à créer quelque chose?
Alors, sur la notion de reconnexion telle que moi je l'entends, le fait d'être en contact avec la nature ou la biodiversité ou des éléments de nature, c'est à mon sens une condition nécessaire. Mais c'est pas forcément une condition suffisante. C'est-à-dire que ça va potentiellement ouvrir des opportunités, justement, de sortir un petit peu de ses problèmes, de à la fois de se recentrer sur soi et en même temps de se décentrer, et de s'imaginer comme faisant aussi partie de quelque chose qui appartenant à quelque chose de plus vaste que nous, etc. Mais on peut aussi rester sur quelque chose de très utilitariste et voilà, une espèce de parenthèse où on va effectivement recharger un peu les batteries pour pouvoir revenir à une vie effectivement trépidante et une vie peut-être pas forcément en relation avec des enjeux actuels.
Ouais.
Du coup, dans cette notion de reconnexion telle que je l'entends, il y a quelque chose de transformatif, on va dire, de participatif. L'idée, serait que ça participe, en même temps que ça participe au bien-être des individus, qu'il y ait aussi quelque chose de l'ordre de la transformation sociale qui s'opère et qui bénéficie non seulement aux humains, mais aussi aux non-humains. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'horizontalité dans la mise en place de ces relations-là.
Donc c'est tout le rapport au vivant, hein. Donc c'est un sujet très vaste et beaucoup moins cosmétique que ça ne peut en avoir l'air parfois quand on évoque les exemples cités de simplement un petit bout de végétal dans son environnement urbain. Les effets vraiment bénéfiques sur le psychisme et sur le corps, ça a été vraiment là aussi évalué scientifiquement, Moïna Fauchier?
Depuis plusieurs dizaines d'années, il y a de plus en plus d'études qui ont été menées un peu partout dans le monde. Il y a des premières méta-analyses aussi qui ont été faites.
Ouais. Quels effets alors, par exemple, le fait pour des enfants de vivre plus en contact avec la nature, qu'est-ce qu'on sait sur certaines pathologies?
Sur alors des pathologies en particulier, il y avait par exemple, il y a une étude qui a été faite pendant sur la durée pour les enfants hyperactifs.
Ouais.
Et on se rend compte que aller en nature de façon régulière, ça peut vraiment apaiser ces enfants qu'on considère hyperactifs. Donc ça, c'est une des choses. Après, le fait d'éduquer en nature par la nature, ça a des effets positifs sur les apprentissages, sur l'éducation, sur le stress dont vous parliez tout à l'heure. Et ça a en particulier des effets, et ça, je trouve ça vraiment intéressant, sur les enfants qui ont le plus de difficultés à l'intérieur, à l'école, qui ont le plus de difficultés à rester assis, à se concentrer, qui seront peut-être de très nombreuses heures en dehors de ce temps-là devant des écrans. Ils vont en particulier en profiter et ils seront plus en relation avec les autres, ça va améliorer les relations entre les enfants et entre l'enfant et les adultes, et ça va les aider à plus se concentrer aussi.
Obésité, troubles de l'attention, dépression chez les enfants, c'est ce qui ressort justement des études associées donc à ce syndrome de manque de nature, Alix Kosker.
On peut parler de manque de nature, on peut parler d'extinction, d'expérience de nature. Il y a plusieurs termes qui disent un petit peu cette même chose, c'est-à-dire les effets négatifs de cet éloignement physique d'avec des éléments de biodiversité.
Allez, on aura encore certainement une ou deux questions dans un instant pour vous, juste après les ex. Voici Camille, l'autre.
Tu m'exaspères avec tes excès de vitesse. Si j'expurgeais ton agenda, il ne resterait plus que moi. Mais toi tu revois sans complexe cet ex que j'exècre et tu me dis tout excité. Y'a plus aucune ambiguïté. Mais je sais, je sais, je sais, je sais que les ex c'est sexe et sexy. Je sais, je sais, je sais, que les ex c'est sexe et sexy. Les ex c'est comme un expresso, ça se boit vite, ça se boit chaud. C'est pas comme l'amour, impossible. Les ex c'est toujours accessible. Seul le sourcil, un beau latex, un coup de fil, air du plex. Y'a plus besoin de mode d'emploi. On a déjà fait ça x fois. Oui, je sais. C'est sexe, c'est sexy. Je sais, je sais, je sais, que les ex c'est sexe, c'est sexy. T'expulse, si notre pax devient pex, si je t'exile, te catapulte vers d'autres galaxies où les ex, c'est permis. En plus, je sais que ça t'est. c'est sexy.
France Inter, la Terre au carré.
Bonjour, France Inter. Moi, j'adore votre émission. Je voulais vous dire que moi, je suis couverte à vélo et que à Lyon. Et c'est très compliqué, les espaces verts. Il y a beaucoup trop de pollution et j'aimerais qu'il y en ait plus. Merci, au revoir.
Voilà, plus de nature dans les villes à Lyon. C'était un message d'Alix sur la note vocale de l'application France Inter. Il y a d'autres messages, Camille.
Oui, un message très ironique de Perrine, mais je vous le dis quand même, faut pas nous en vouloir, nous les urbains. Je crois qu'on a juste peur, voire du dégoût pour les bêtes, les insectes, à cause de leur aspect, mais également des piqûres. On a peur de salir nos jolies chaussures. Voilà, je sais pas si ça vous fait réagir.
Moi, il faut des bottes pour les enfants.
Même en ville.
Mais oui, pour pouvoir jouer.
Et Emmanuel nous écrit sur Facebook à l'instant, mon lien avec la nature, ça m'émerveille, c'est de m'émerveiller chaque jour de ce qu'elle nous offre. Les tomates, les citrouilles de mon potager, ce sont les fleurs de mes passiflores. Excusez-moi, mais j'ai une question quand même. Est-ce que ça fait pas très urbain, justement, de s'émerveiller devant une tomate? Est-ce que franchement, les gens qui ont ça autour d'eux, qui s'en rendent même plus compte, c'est-à-dire les vrais ruraux, à qui on rend hommage, n'en ont pas rien à faire et se moqueraient d'un urbain, pour le dire comme ça, qui s'extasie devant une tomate, Alix Kosker?
Non, je suis pas sûre. Alors peut-être qu'ils vont pas regarder les mêmes choses et peut-être qu'ils vont pas s'extasier sur les mêmes choses, mais j'ai l'impression que les émotions, c'est aussi au cœur de cette notion de reconnexion, le fait d'avoir des affects vis-à-vis des choses du vivant, que ça nous émeuve, ça c'est important et c'est pas parce qu'on vit en pleine nature. D'autant plus, je pense qu'on côtoie la nature, on est capacité de regarder ces petites choses qui paraissent rien au départ et qui en fait sont à la fois incroyablement complexes et à la fois fragiles et fortes. Enfin, voilà, au contraire, non, je pense qu'on peut s'émerveiller tout le temps.
On viendra s'émerveiller sur vos tomates, sur votre balcon, Camille, parce que je sais que vous en plantez, mais voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. Alix Kosker, le lien naturel pour une reconnexion vivant au pommier, et puis Moïna Fauchier de la Ville. Emmenez les enfants dehors, c'est une proposition aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues cet après-midi.
Pur, que dit la nature? Épisode 26.
Eh bien, restez avec nous, parce que justement, là, on va vivre une vraie expérience aussi de nature, un peu particulière. C'est avec France Télévisions, puisque depuis l'année dernière, il existe le podcast et vodcast pur, tout simplement, une expérience sonore inédite d'immersion dans un milieu de la planète dont vous allez pouvoir deviner l'origine et le contexte. Donc, écoutez bien, c'est parti. Prenez le temps, évidemment, d'ouvrir vos oreilles. La scène que vous allez écouter a été enregistrée par l'audio-naturaliste Fernand de Roussen et on vous en offre 2 minutes. Je demande à nos invités, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe là en ce moment ? Vous seriez où, Alix Kosker, là, en entendant tout ça?
Pas du tout, c'est assez énigmatique, c'est écrit, ouais. Peut-être au bord d'un lac.
Bon, une affauchée de la vie pour vous?
Je trouve ça génial parce que ça fait du bien d'écouter. On est très souvent dans la vision et on n'écoute pas assez.
Mais prolongez justement l'expérience et vous aurez la réponse, hein, évidemment, en allant sur le site de France.tv, partenaire donc de La Terre au Carré avec Pur, Que dit la nature, le podcast et votre casque pour justement être immergé dans ces sons grâce à Fernand de Roussen.